Elles sont petites, modestes, mais indémodables et durables. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire. Les maisons de vétérans, la solution d'après-guerre à la crise du logement.
Il y a quatre types de maisons. C'est la quatre chambres dite H1. H2 qui a le même plan renversé. H12 qui a deux étages et six chambres. H22 dont le salon est de dimension plus grande. D'un bout à l'autre du Canada industriel, les logis de guerre nous sont devenus familiers. Mais c'est à Windsor, où 15 000 nouveaux ouvriers ont grossi les rangs de l'industrie de l'automobile, qu'a eu lieu la plus étonnante entreprise de toutes. Plus de 2 000 maisons ont été construites en moins d'un an.
Extrait de « La chasse au logis », documentaire de l'ONF produit en 1943. Dans le Canada d'après-guerre, les ouvriers sont mal logés et en ville, des familles nombreuses s'entassent dans des taudis. Alors que le baby-boom accroît la pression, le gouvernement fédéral décide alors d'agir et lance un vaste programme. En quelques années seulement, des dizaines de milliers de maisons seront construites, la plupart du temps sur le même modèle. Elles sont modestes, de petite taille, à toit à deux versants, mais solides et surtout bon marché. Ainsi naît la maison de vétérans, un modèle unique, ancêtre du préfabriqué.
Outre le zonage et la circulation, l'une des questions les plus urgentes est celle de l'habitation. À l'heure actuelle, il existe dans notre pays, à Montréal en particulier, une fâcheuse pénurie de logements, aggravée du fait de la guerre et de la formidable expansion industrielle qui en est résultée. Pour résoudre cette difficulté, le service d'urbanisme a entrepris des études sur les possibilités d'utilisation du domaine municipal privé, conformément à la nouvelle politique d'habitation des gouvernements fédéral et provincial, favorisant l'accession à la petite propriété. De plus, le service d'urbanisme se rend compte que la tendance des villes à la décentralisation et à l'abandon des vieux quartiers crée, ici comme ailleurs, de graves problèmes de transport et de circulation, accompagnés de moins-values immobilières.
Les propos d'Aimé Cousineau, directeur du service de l'urbanisme à la Ville de Montréal, c'était à notre radio en décembre 1944. Alors pour nous parler du contexte de la maison de vétérans, du contexte de l'époque, surtout mon invité, Lucika Morisset, elle est professeure au département d'études urbaines et touristiques, également titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
On l'a entendu dans l'extrait ici, hein, grave crise du logement en 1944, et c'est pas qu'à Montréal, c'est à peu près dans toutes les grandes villes au Canada. Ça ressemble à quoi la situation dans nos villes avant et pendant la Deuxième Grande Guerre?
Bien, c'est en effet partout au Canada. On estime qu'il y a 25 à 50 donc le quart à la moitié des logements au Canada dans les grandes villes qui sont insalubres. Insalubres, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau courante et ainsi de suite. Et en plus, les gens s'y empilent. On a même une expression à l'époque qui s'appelle le « double family household ». Et on dit double, mais il y a parfois trois...
Donc deux familles par logement?
Deux familles et même trois ou quatre par logement parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements insalubres ou pas d'ailleurs. On estime à Montréal, en 1939, on estime qu'il manque 35 000 logements. Et ça, c'est en 1939. Dès l'ouverture, le déclenchement du conflit vont affluer vers Montréal 65 000 nouveaux travailleurs, des travailleurs de l'industrie de guerre, qui vont s'établir à Montréal de 1939 à 1945. Ça nous donne donc une ampleur du besoin de logement qui ne va que s'accroître finalement au fil de la guerre, si bien que certains vont dire qu'il a manqué pendant la guerre 500 000 logements.
Ah oui, à ce point-là. Mais pourquoi on ne construisait pas avant? Parce qu'on se relève de la crise économique?
Parce qu'on se relève de la crise économique, mais surtout parce qu'il faut voir que ce ne sont pas les gouvernements qui sont investis dans le domaine du logement partout en Amérique du Nord, tout au long du 20e siècle, en fait, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui construisent du logement, ce sont les compagnies, les entreprises qui construisent donc des logements pour leurs ouvriers, ces fameuses villes de compagnie, hein, ces villages de compagnie qu'on va
Arvida,
retrouver.
Arvida, entre autres. Là,
Arvida, entre autres. En effet, qu'on va retrouver donc autour des entreprises, des industries, un peu partout sur le territoire, et plus particulièrement sur un territoire qu'il faut toujours coloniser. Hein. Donc, en dehors des grandes villes, on va créer de nouvelles grandes villes autour de ces entreprises. Et c'est comme ça que l'expertise en construction de logements et en construction de maisons va être entre les mains de ce qu'on appelle aujourd'hui le secteur privé, beaucoup plus que le secteur gouvernemental. Et ça, c'est tant aux États-Unis qu'au Canada.
Oui. Il faut dire que la population n'a pas beaucoup d'argent parce qu'on se relève à peine des années 30 à la Grande Dépression qui a entraîné son lot de pauvreté, de mal logés également, vous l'avez dit. Un rappel ici, le documentariste Pierre Perrault qui évoque son enfance avec le témoignage de sa mère, c'était à notre radio, beaucoup plus tard, en juin 1965.
Moi, j'apprécie beaucoup tout ce qui nous arrive, toutes les bonnes choses que nous avons aujourd'hui, parce que quand on était mère de la crise, on sait ce que c'est. Et puis, passer la crise avec 10 enfants, ça, c'est quelque chose, hein, mon petit garçon. Vous savez que quand vous éleviez une famille, en ce temps-là, il n'y avait rien de rose. C'était dur.
Tout se passe comme si ma mère avait mis au monde la pauvreté. Et qui m'expliquera la pauvreté et la langue qu'elle parle comme on habite une maison pestiférée? Ma mère de la crise habitait, en silence maternel, une maison où la cuisine est au salon et toutes les chambres à coucher dans l'ancienne salle à manger, où également se trouve le piano qui ne joue plus. C'était une maison autrefois convenable et qui garde en son milieu la porte cochère fastueuse. Mais des gens désormais habitent les écuries. Et le reste a été muré en 4 portions, divisées entre les misères des uns, pour augmenter les profits des propriétaires.
Oui, ça rejoint ce que vous dites. Hein? C'est-à-dire, on s'entasse comme ça à plusieurs familles dans ces logements. Donc, crise du logement, famille nombreuse, baby-boom aussi après la guerre, et puis ces travailleurs d'usine, vous l'avez dit, usine de guerre qui affluent dans à peu près toutes les villes. Donc, comment vont apparaître ces fameuses maisons de vétérans, ce fameux programme?
Les maisons, ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons de vétérans, apparaissent en fait avant qu'il y ait des vétérans, qui vont devenir des vétérans par la suite, avec le déclenchement du conflit mondial. Donc, 1939, le gouvernement commence à imaginer une intervention plus coordonnée que celle des entreprises, justement, dans le secteur du logement. On a déjà des programmes d'habitation qui visent surtout à permettre à des propriétaires d'avoir accès à la propriété, à de futurs propriétaires. Mais là, ce que le gouvernement va lancer, le gouvernement fédéral va lancer, en 1941, c'est une société, la société Wartime Housing, qui va avoir pour mission de créer, de construire, d'assurer la construction de logements, d'abord pour les travailleurs de guerre qui affluent dans les villes autour de toutes les usines, de toutes les industries qui vont évidemment se convertir à produire ceci ou cela pour aider l'effort de guerre.
Oui. Donc, ça ressemble d'abord à des villes de compagnie. C'est un peu sur le même modèle, non? Quand on construit comme ça autour d'une usine, c'est un peu ce qu'on a fait à Arvida ou à Shawinigan ou ailleurs, à Rouyn-Noranda, non?
C'est absolument ça. Et c'est d'abord autour de ces usines, justement, que ce soit à Windsor, à Sault-Sainte-Marie, à Kelowna, en Colombie-Britannique, à Moncton ou à Arvida, justement, où on va construire 543 de ces maisons de la Wartime Housing, donc autour des industries de guerre, pour assurer un logement décent aux travailleurs de l'effort de guerre.
Oui. Les travailleurs, est-ce qu'ils achetaient la maison ou ils la louaient au début?
Les travailleurs louaient la maison. C'est-à-dire que la Wartime Housing, la société fédérale, va s'assurer de l'aménagement, va payer pour l'aménagement du sol, des infrastructures, l'implantation des maisons et ainsi de suite, va demander à des promoteurs ou par l'entremise de la municipalité à laquelle elle va acheter le terrain sur lequel on va construire ces nouveaux quartiers, va donc mobiliser des promoteurs parce qu'il faut bien voir si on construit 500 maisons à la fois, on a besoin de quelqu'un qui est capable de construire 500 maisons à la fois. Donc, il y a une certaine expertise, qui a une force de travail, qui a accès à des matériaux, qui va être facilité, évidemment, puisque là, on parle donc d'une industrie de guerre qui est priorisée. On va comme ça développer ces quartiers autour des industries de guerre et c'est la Wartime Housing qui va aussi gérer le logement, la perception des loyers, c'est-à-dire autour de 20 à 30 $ par maison.
Oui. Et c'est plus tard qu'il sera possible de les acheter hein, pour les vétérans, donc ceux qui ont participé à la guerre. Mais d'abord, on va écouter un portrait de ce fameux programme qui va permettre, à des milliers de travailleurs de se loger. La chasse au logis, encore une fois, toujours ce documentaire de l'ONF en 1943.
Chaque soir, à la relève des équipes, des milliers d'ouvriers émergent des usines. Une fois dans la rue, ils hésitent. La journée est finie. Où aller maintenant? Où loger? La zone des taudis devient de plus en plus grouillante et insalubre. Même avant la guerre, les logements convenables faisaient défaut. le Canada fut lent à raser les régions condamnées et les quartiers inhabitables. Afin de résoudre ce problème immédiat, le gouvernement fédéral a institué en 1941 le Wartime Housing Limited. Cette compagnie de la couronne, exploitée par des particuliers, dut entreprendre la tâche d'élaborer des plans de logement temporaires destinés aux ouvriers des centres industriels. Architectes et dessinateurs s'attelèrent donc à la tâche de mettre au point les plans de maisons peu coûteuses, construites avec des matériaux non essentiels qui pourraient être bâtis rapidement par une production de masse.
Il y a ici, voilà, la fameuse maison de vétéran. Alors, qui ressemble à quoi, si on doit la décrire? Ça ressemble à quoi, une maison de vétéran?
Cette maison de vétéran, elle a un étage à un étage et demi. Elle a 1000 pieds carrés de superficie. Un étage et demi, c'est-à-dire ce qu'on appelle un deuxième étage, qui est sous le toit à deux versants. C'est une petite maison carrée. D'abord, il faut bien voir, les villes de compagnie ont institué partout ce modèle de la maison pavillonnaire, hein, qui est comme ça plantée toute seule au milieu de son vaste terrain. Mmh. Et c'est ce modèle-là que va reprendre la Wartime Housing avec ses maisons, donc d'un étage ou un étage et demi, avec deux ou quatre chambres, donc selon qu'on a des chambres au deuxième étage ou pas, un revêtement de planche à clin, donc de la planche à clin de 6 pouces ou un revêtement en bardeaux d'amiante, un toit recouvert de bardeaux d'asphalte et puis un petit porche en avancée avec un petit fronton triangulaire tout à fait caractéristique qu'on reconnaît encore aujourd'hui. Donc c'est cette maison-là, ce modèle-là de maison qui va se généraliser à partir des plans proposés par la Wartime Housing aux promoteurs, aux constructeurs qui vont construire sur place et qui vont eux-mêmes ajouter à ça quelques variations. Hein. Ici et là, on aura parfois des maisons en briques, des maisons revêtues autrement avec de la planche d'une largeur différente et ainsi de suite. Mais c'est donc une maison caractéristique de ce qu'on fait déjà en Amérique du Nord dans les villes de compagnie, qui va se généraliser avec la Wartime Housing, une maison en charpente de bois construite sur plateforme. Elle est construite sans fondation au départ.
Ah, sans fondation.
Sans fondation parce que la Wartime Housing imaginait construire d'abord et avant tout des maisons temporaires. Mm-hmm. Elles sont devenues permanentes par la suite et c'est pourquoi la Wartime Housing va elle-même monter ses anciennes maisons sur des fondations pour les rendre permanentes. Mais l'idée de base, c'était de fournir le plus rapidement possible un logement aux travailleurs de guerre. Et le plus rapidement possible, bien, une de ces maisons, on peut la construire la plus petite en une vingtaine d'heures. Tout simplement.
Ah oui, très, très rapidement. Bon, si on veut l'imaginer, mais vous l'aviez bien décrite, mais ça ressemble presque à une maison typique qu'un enfant dessinerait, hein, ou une petite maison de Monopoly, là, une petite maison carrée, 25 par 25, construite très rapidement à la chaîne. Donc, pas faite en usine, mais ce sont les équipes qui se déplacent. Hein. C'est bel et bien ça?
Ce sont les équipes qui se déplacent. Et comme on construit en bois, on va développer un savoir-faire de la construction en bois. On va pas, c'est pas de la préfabrication, on n'arrive pas avec des morceaux de maison.
Non, c'est ça.
Mais on va pouvoir prédécouper toute une série, comme ce qu'on faisait dans les plus grosses villes de compagnie, à Arvida, par exemple, on va pouvoir prédécouper un certain nombre de composantes, les 2x4, par exemple, dont on va faire les murs. On va parfois assembler des panneaux de murs qu'on va monter sur cette plateforme. Donc, on monte le plancher de la maison et on assemble la maison à partir du plancher. Donc, on monte les murs, la charpente d'abord, le mur extérieur, le mur intérieur sur le plancher de cette maison. Puis ensuite, on construit le toit sur la sablière des murs, finalement. Mmh.
Et ça permet des économies d'échelle, on imagine? D'une part, elles sont modestes, puis elles sont construites assez rapidement.
Et elles sont construites avec des matériaux qui sont tous de la même dimension.
C'est ça.
Ce qui est tout à fait nouveau pour l'époque.
Ah oui, 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 tout à fait. Bien, ça permet d'aller vite, vous l'avez dit, en une vingtaine d'heures. C'est quand même assez spectaculaire. On dit qu'elles sont pas chères. Elles coûtent combien, grosso modo?
Bien, la maison, elle va coûter en location 20 à 30 $ par mois quand la société Wartime Housing va les rendre pérennes et puis va ensuite, après la guerre, en fait, dès 1944, construire des maisons, celles-là permanentes pour les vétérans, ceux qui reviennent de la guerre. Hein, parce qu'on a, en 1946 seulement, on a 620 000 démobilisés qui vont revenir au Canada.
Ah oui, ben oui, pour les loger, ces gens-là. Là.
C'est ce qui, évidemment, ajoute à la crise du logement, qui vont arrivent pas tout seuls, parce qu'ils arrivent avec à peu près 30 000 femmes et enfants de guerre qu'ils ont rencontrés ailleurs. De 1946 à 1951, le Canada va accueillir quelque chose comme 150 000 personnes déplacées, ce qu'on appellerait aussi des réfugiés aujourd'hui. Donc, pour eux, la société Wartime Housing va aussi construire des maisons qui vont devenir permanentes. Ces maisons-là, ça va se vendre au lendemain de la guerre, là, à peu près, disons, 2 à 3 000 $, ce qui est l'équivalent, si on veut, de 20 à 40 000 $ d'aujourd'hui. Mais disons que c'est deux fois... Le salaire n'est pas très élevé non plus à l'époque.
Mais quand même, si on fait la conversion de l'heure constant aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins cher.
Donc, disons qu'en loyer, ça coûte le quart du revenu familial et la maison, elle coûte à peu près le double du revenu annuel brut d'une famille.
Oui. Ce qui est la façon de compter avec... parce que tout ça, ça va donner naissance, ça va se transformer à ce qu'on appelle aujourd'hui la SCHL, là, qui est bien connue.
Oui. Au lendemain de la guerre, donc, la société Wartime continue à construire des maisons et va transmettre son savoir-faire en construction de maisons, mais surtout en définition de petits modèles de maisons qu'on va proposer aux municipalités, en savoir-faire d'aménager des ensembles et ainsi de suite. Va transférer ça à une nouvelle société d'État qui va être la Société centrale d'hypothèque et de logement, aujourd'hui la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui va elle-même d'abord, en 1947, commencer par construire elle aussi des maisons pour les vétérans. Mais très tôt, ce qu'elle va faire aussi, c'est un peu reprendre ce que la Wartime Housing faisait, proposer des modèles de maisons et systématiser cette proposition de modèles dans des catalogues qu'elle va constituer avec l'aide d'architectes. Et c'est ce qui va nous donner le bungalow.
Oui, tout à fait. On va y venir, mais d'abord, après la guerre, les plans seront vendus. C'est avec aussi la naissance de la classe moyenne, qui ultimement va mener au triomphe de la banlieue. Un exemple ici de ces coquettes maisons telles qu'on les présente à l'époque, 22 juillet 1947, c'est à notre radio, l'Expo Habitation de Québec, telle que présentée à l'époque.
Mes chers auditeurs, c'est Roland Lelièvre qui vous parle. Vous avez sans doute rêvé, comme tout le monde, d'avoir un jour votre petite maison bien à vous. Une maison coquette, entourée de verdure, où la marmaille pourrait jouer à loisir dans l'air pur et sous le soleil. Ce rêve de chacun semble vouloir se concrétiser parfois, quand le papa, un bon soir, s'attable et commence à tracer sur papier des plans de sa conception. Un fait demeure. Des plans de maison ont depuis toujours fasciné l'esprit du chef de famille, soucieux du climat familial, du climat hygiénique et de l'allure progressive et moderne de son chez-soi. On ouvre justement à Québec, aujourd'hui, au foyer du Palais Montcalm, une exposition de plans de maisons. En effet, au-delà de 35 plans de maisonnettes, typiquement canadiennes, sont en montre. Cette exposition se tient toute la semaine, jusqu'à samedi, au foyer du Palais Montcalm, sous les auspices de la Société centrale de prêts et hypothèques du Canada, un organisme gouvernemental créé dans le but de promouvoir la construction à meilleur compte, de meilleurs foyers canadiens.
À meilleur compte, et on dira plus tard dans cette même archive que ces foyers canadiens seront vendus. Le prix maximal, c'est autour de 5 000 $. Combien on va en construire de ces maisons de vétérans à l'échelle pancanadienne?
On va en construire 50 000, donc à peu près, là, oui. De 1941 jusqu'à 1947, qui vont évidemment aussi se propager. C'est-à-dire qu'il y a aussi des promoteurs qui vont décider de construire des maisons comme celle-là. Il y a des sociétés, des associations de citoyens qui vont militer pour le retour des vétérans chez eux et qui vont, comme ça, mobiliser des efforts pour construire des maisons comme celle-là.
Oui. On dit même que certaines de ces maisons seront exportées en Europe. En tout cas, le savoir-faire.
C'est que non seulement on va définir une façon d'habiter le Canada. Il faut bien voir 50 000 maisons qui se ressemblent à peu près toutes partout au Canada. Oui. Il y a des gens qui ont dit que c'était l'équivalent des silos, des prairies ou des châteaux du Canadien Pacifique, par exemple. Oui. C'est quelque chose qui va marquer le paysage canadien, qui va marquer l'imaginaire canadien. Le modèle de ces maisons et leur image va se propager d'autant plus dans l'imaginaire collectif que les provinces sont un peu méfiantes, puis les municipalités canadiennes-françaises notamment, sont un peu méfiantes.
C'est le fédéral,
face... face à cette intervention fédérale. Et on va développer, notamment au Québec, on va développer toute une expertise et toute une réaction catholique à cette intervention. Et à partir de là, vont s'organiser la Ligue catholique, par exemple, qui va proposer elle-même de financer la construction de maisons qui vont, peu ou prou, adopter à peu près la même figure et qui vont nous donner toutes les coopératives d'habitation qu'on connaît aujourd'hui. La Cité Jardin du Tricentenaire.
À côté du Parc Maisonneuve.
À côté du Parc Maisonneuve à Montréal. Le foyer coopératif à Chicoutimi, qui est bien connu dans cette région-là, sont des exemples de cette propagation de ce modèle de maison. Donc, on va propager l'image de ces maisons, mais on va aussi développer et propager un savoir-faire, l'idée de construire en série et de savoir construire avec du bois en série va devenir une expertise tout à fait canadienne et même québécoise. Et on va comme ça exporter pour la reconstruction en Europe un certain nombre de ces maisons. On sait aujourd'hui que dans la ville de Lorient, en Bretagne, on a construit ce qu'en France, on appelle encore aujourd'hui, et c'est, ça a marqué l'imaginaire collectif, des baraques canadiennes.
Ah oui?
Et c'est pas péjoratif, les baraques canadiennes, qui étaient des maisons temporaires destinées à héberger les gens pendant la reconstruction. Donc, pas des maisons pérennes, mais on sait donc à Lorient, en Bretagne, il y a un constructeur de la région de Québec, de Beauport, Ulysse Sainte-Marie, qui a exporté 1500 maisons qui ont été comme ça construites, montées du jour au lendemain, grâce à cette expertise de standardisation et de préfabrication qu'on a acquise grâce à la construction des maisons de la Wartime Housing.
Ah oui. Vous avez dit plutôt que c'est l'ancêtre du bungalow. Alors, de quelle façon la maison de vétérans est l'ancêtre du bungalow et va se transformer en bungalow?
Bien, en propageant, elle va donner, produire le bungalow en propageant cette image qui avait été un peu déjà codifiée dans les villes de compagnie antérieurement du petit pavillon planté sur son terrain. Donc, on n'a pas ici comme habitat naturel des immeubles collectifs ou des maisons d'appartements, des maisons en rangée. C'est cette maison qui est toute seule sur son terrain, au centre de son terrain, un petit pavillon. Mm-hmm. Et c'est exactement ce que le bungalow va reprendre. Ce que le bungalow va reprendre aussi grâce au catalogue de la SCHL qui vont largement nourrir sa forme. Et tout ça à partir de la maison qui avait été codifiée par la société Wartime.
Oui. Il en reste quoi aujourd'hui? Bon, il y a différents quartiers qu'on peut encore apercevoir, en tout cas ici à Montréal, assez facilement, mais dans plein de villes canadiennes. Puis il y a l'éternelle question, est-ce que ces maisons de vétérans ont une valeur patrimoniale? Ça aussi, la question se pose, non?
Bien, il y a plusieurs municipalités qui de plus en plus s'investissent dans la conservation de ce qu'ils considèrent comme étant des paysages distinctifs de leur territoire. Mm-hmm. Et il y a donc, par exemple, à Moncton, on a sauvegardé un quartier de 28 maisons sur 250 qui avaient été construites. Montréal-Est a adopté une réglementation spécifique pour protéger ses maisons de vétérans. À Kelowna, en Colombie-Britannique, on a développé aussi une réglementation. Donc, de plus en plus, ces municipalités s'investissent pour protéger ce qui est considéré comme étant caractéristique de leur territoire. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'elles sont tellement pan-canadiennes, ces maisons, que, je le disais, hein, ce sont les châteaux du Canadien Pacifique, les hôtels du Canadien Pacifique, ou c'est comme les gares du Canada. C'est la marque de la modernité canadienne. Et si on cherchait aujourd'hui quelque chose qui est vraiment pan-canadien en matière de patrimoine, au-delà des villes de compagnie, c'est certainement la maison de vétérans.
Oui. Intéressant, parce que c'est vrai que dans notre imaginaire, quand je disais la petite maison carrée telle qu'on l'imagine, c'est ça la maison de vétérans. 50 000 construites comme ça d'un océan à l'autre et assez rapidement, en quelques années seulement, puisque permis à des milliers de familles de vétérans de se loger à moindre coût. Mon invité est Lucika Morisset, elle est professeure au département d'études urbaines et touristiques et également titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Toujours un plaisir de vous recevoir, merci beaucoup.
Merci.
Merci également à toutes les équipe d'aujourd'hui l'histoire. Ici Maxime Coutier là-dessus. Bonne soirée. À demain. Au revoir.